19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Live sur Beurre FM, 19h pétante en ce vendredi soir, et oui, jour, début du week-end. On est le vendredi 6 novembre 2020 et c'est l'heure de Time Sport. Comme chaque soir, du lundi au vendredi, on abordera au menu de cette émission l'Europa League, Nice qui tombe et le LOSC invaincu. Et oui, le LOSC grandiose hier et qui fait justement honneur à ces fameux clubs français en Coupe Européenne. La liste de Didier Deschamps, des surprises et des changements aussi, on va revenir sur cela. Sans oublier notre invité ce soir, Christophe Gamel, entraîneur du côté du Paradou. 3 matchs internationaux et on est en train peut-être de maltraiter le corps de nos footballeurs. On reviendra aussi sur nos confrères de Mediapro qui demandent 25% de réduction sur sa fameuse facture. Et aussi le fameux derby olympique lyonnais contre versus la Saint-Etienne, un derby pour peut-être montrer que Lyon est en forme et définitivement peut-être de retour dans cette fameuse Ligue 1 Uber Eats. N'oubliez pas le 0153483000, numéro du standard où Yanis se fera un plaisir de vous décrocher, notre cher réalisateur. Sur la twittosphère, Farid Rouas, le community manager, là aussi est toujours prêt à dégainer avec les consultants, mais aussi vous sur la twittosphère. Et c'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Vivien Boyebonga, sans oublier notre Vic Nesh. Comment ça va, Vic Nesh?
Salut Bilal, salut tout le monde. Ça va et toi?
Ça va très très bien, Vic Nesh. On est aussi avec Mourad, il est là. Ça va bien, Mourad, ça va très 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 bien. Bien sûr.
Ouais, ça commence.
Anas est avec nous aussi ce soir. Comment ça va, Anas?
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. Ouais, ça va très bien, un peu particulier parce que normalement je vais que le lundi, mais ça fait plaisir aussi.
Ouais, le vendredi, c'est vrai, c'est rare de retrouver Anas. Eh ben voilà. Ouais.
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est autre chose.
Ouais, c'est la gamme.
Mais non.
D'accord. El Presidente, Kamel est avec nous ce soir. Comment ça va, Kamel?
Ça va très bien, merci.
Ouais, tranquillement.
Ça se passe bien, c'est nickel.
Les auditeurs, les auditrices, Kamel, le petit clin d'œil. Toujours.
Bonsoir à nos auditrices et nos auditeurs, comme on dit.
Eh oui.
Qui nous écoutent avec attention.
Et Yacine Bouali est avec nous aussi. Ça va, Yacine?
Bonsoir Vivien.
Il y a Vivien. On le cherche, il arrive.
Il arrive
Vivien. Alors on va s'attarder sur le premier sujet.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, que dire, Mourad, le Milan AC, eux, ils les ont fait tomber. Hein, les hommes d'un certain Christophe Galtier. Ouais, pas faux. Il avait l'habitude de l'atteindre, de mettre des déculottés à Galtier, mais là, non, il n'en a pas eu.
Ils avaient été à l'exploit, à savoir qu'ils sont partis gagner 3-0 chez un club, je crois, qui a gagné 6 ou 7 fois la Ligue des Champions.
7, ouais.
Donc, c'est pas une performance, mais aussi d'un point de vue du jeu, indépendamment du contexte.
Ouais.
On a vu, on parlait de trading, on jetait la pierre sur le LOSC en disant c'est une équipe qui est une plateforme d'achat qui achète et qui revend. Aujourd'hui, on voit que c'est un projet qui tient la route sur le court moyen terme. On a des Yazice qui mettent des triplés avec des joueurs qui ont coûté quand même un certain montant mais qui performent sur le terrain. On a des joueurs qui sont d'un certain âge et qui paraissaient même encore plus jeunes devant Zlatan Ibrahimovic hier. Je pense à Fonté qui performait. On a eu aussi une masterclass de la part de Renato Sanchez hier. Donc tous les feux sont ouverts du côté du LOSC et tout ça grâce justement au coach qui, contrairement à un Vieira, si on aura l'occasion de parler de l'OGC Nice, qui est en contrôle de son groupe, hein, on parle de Galtier, qui est en contrôle de son groupe et qui s'inscrit dans la durée et qui, lui, ne prend pas en compte la politique du club sur des questions de training, justement, et qui viennent peut-être perturber sur le court moyen terme les performances du club.
Avec son Vic Nesh, avec l'OGC Nice aussi, et ses Lillois.
Eh ben moi, habituellement, je fais des louanges à Christophe Galtier, et c'est l'occasion. Là, il prouve bien qu'il fait du bon travail à Lille. C'est une très très belle victoire de Lille. Si au début de la semaine, on nous avait annoncé que s'il y avait bien une équipe qui devait pas gagner, moi j'aurais mis la paix sur Lille, justement. Alors que c'est la seule, c'est l'équipe qui gagne. Donc c'est paradoxal le foot, pour dire ça déjà. Et c'est la seule fois que le Milan prend 3 buts à domicile en Coupe d'Europe. Donc ça, c'est franchement, c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose de très très fort qu'a fait Lille. Et moi, j'aimerais mettre en avant Renato Sanchez, qui a été très très bon hier.
Ouais.
À un moment, il s'est blessé et il a continué à jouer. Il a été très très bon. Un bon collectif. Il y a du jeu. Yazice qui marque un triplé, son deuxième en Coupe d'Europe. Donc franchement, c'est une très très équipe,
c'est
belle équipe.
Europa League, hein.
Ouais, j'ai dit quoi?
Non, je suis d'accord avec toi.
Ah, ok. Non, après, oui, après.
C'est pas là que pour contredire.
Bah, juste, on sait jamais. Et après, là, c'est pour dire qu'ils font du bon jeu, Lille. J'apprécie ce qu'ils font. Très, très bon, les jeunes. Il y a encore le seul regret, c'est Jonathan David qui n'a toujours pas marqué. Mais bon, dans le jeu, il est bon. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va marquer. Et voilà. Et j'aime bien le collectif de Lille. Franchement, c'est très sympa. J'aime beaucoup regarder. Rien à dire.
Ils font honneur à cette France du football, peut-être, Kamel. Surtout
oui,
sur cette semaine.
Oui, alors. Bon, après, t'as vu, après, c'est. Faut réitérer l'exploit parce qu'il faut pas être seulement sur des one shot. Mais ce qui est intéressant chez Galtier, et c'est la différence de tous ces coachs de Ligue 1, de Ligue 1 Uber Eats, là, de Pizza Hut et compagnie, là, Ligue 1 de
Minos Pizza.
Wow, quand même.
De Ligue 1, c'est qu'ils jouent en 4-4-2, avec deux attaquants et deux joueurs sur les couloirs. Ça veut dire que quand il est en position offensive, il joue en 4-2-4. Ça veut dire qu'il a quatre attaquants. Et c'est ça qui fait la différence. Je veux dire, au-delà de son aspect technique, mais c'est ça qui fait la différence. Ça veut dire que tous les entraîneurs de Ligue 1, ils vont jouer avec un attaquant, voire zéro attaquant. En 4-2-3-1, ils vont intellectualiser le foot, ils vont dire en 4-0-0-2-1-1.
Ils réinventent le football à
rien
chaque match.
Rien à voir avec le football, ils veulent l'actualiser. Ouais. Donc je veux dire.
Avec chaque joueur qu'il a, en fait, justement.
Non, mais même, des fois, tu regardes Marseille, ils ont des attaquants, des petits attaquants, mais des fois, ils jouent sans attaquants. Donc,
oui, exactement.
Donc il y a plein de clubs qui jouent sans attaquants, alors qu'ils sont 3-4 attaquants sur le banc. Là, lui, Galtier, il est là, il fait un 4-4-2 et en phase offensive, un 4-2-4 avec Bamba et Koné. Donc je veux dire, C'est ça qui fait la différence.
Il a quand même le choix aussi, Galtier,
mais sur le
par rapport
plus,
à Villas-Boas.
Il a le choix.
Il a Jonathan David, il a Diaziche, il a Mourad Yilmaz.
Je veux dire, c'est que ils ont recruté des joueurs en fonction de sa philosophie.
Exactement.
Si c'est sa philosophie, c'est l'attaque.
Exactement.
Ils vont recruter des joueurs faut de l'attaque. Si t'arrives, t'es entraîneur, tu dis bon moi, je veux jouer avec trois défenseurs en 5-3-2 ou en 5-2-1, etc. Le recrutement va se faire en fonction de ton truc. Donc je pense que Galtier
il a pas tort, là.
Est très fort et très fort dans ça.
Ouais. Après, il a
d'accord, mais c'est une question d'équilibre aussi.
Ouais.
Non, mais.
L'équilibre, il a tout le temps l'équilibre. Ah, toi aussi, tu l'as l'équilibre sur sa moto.
Un défenseur hollandais qui a quand même performé.
Mais ça, c'est un poncif des entraîneurs de Ligue 1, c'est-à-dire l'équilibre. On va être en équipe avec 8 défenseurs.
Mais après, ils sont portés vers l'offensif aussi.
C'est ça. Ouais.
Leur équilibre, Lille, ils jouent plutôt vers l'offensif. Donc leur équilibre, en fait, ils ont 3-4 joueurs qui sont là pour.
C'est la performance des défenseurs.
C'est ça.
Oui,
après, là, le milieu.
Je parle de Jeanne Néerlandais qui a été recruté en défenseur.
Oui, c'est ça. Botman. Après, t'as les latéraux qui sont très très bons, qui sont super offensifs. Au milieu, t'as Benjamin André, Renato Sanchez, Boubacar Soumaré, qui sont très très bons. En fait, c'est un équilibre, en fait, mais ils arrivent à se compenser. Chacun joue pour l'autre. Le collectif, il est en place. Donc c'est agréable et c'est beau à voir jouer.
C'est le travail de l'entraîneur.
Et bien
c'est l'entraîneur qui met en place sa
bien
tactique, comment bien utiliser les joueurs
élément.
Qu'il a offensif, qu'il a défensif.
Bien
voilà.
Sûr.
Et moi, je te dis, moi pour moi, la meilleure tactique, c'est un 4-4-2 et qui se transforme en 4-2-4 quand tu es en offensif. Et parce que le 4-3-3, le 4-2-3-1, le 3-5-2, ils veulent intellectualiser le foot et ils font n'importe quoi. Et la preuve, regardez, ils sont à la rue. Et la preuve, ils sont allés gagner au Milan AC qui avait pas perdu 24 matchs, 3-0, ils leur ont mis une déculottée. Ben voilà.
Alors justement, Yannis il est d'accord aussi.
On n'a jamais vu un Milan peut-être depuis des années et des années aussi performant, hein, 24 matchs sans défaite, mais hier soir on avait un Milan AVC, ils avaient un AVC, on avait l'impression
mal,
que c'est un club qui a perdu complètement, ils ont pris un AVC. Complètement, mais après aujourd'hui pour dire que Lille c'est un club qui va faire fureur dans cette Ligue Europa, je suis pas d'accord. Hier il y a Milan AC ils étaient complètement à la ramasse parce c'est qu'avec un Milan AC moyen hier Lille on aurait pris la raclée de sa vie tout simplement. Chacun son avis, parce que je suis en train moi quand je me réveille le matin je regarde un petit peu, je fais ma revue de presse, je vois la photo de Galtier un peu partout. J'ai l'impression aujourd'hui c'est devenu le top numéro 1, je pense.
Yacine, c'est toi qui avais dit qui est Kamel,
je le redis.
Je crois que c'est Claude. C'est le coach du Toulouse.
Justement, vous lisez dans ma pensée, ils sont en train de le préparer. ils sont en train de le préparer peut-être quelque part.
Maïn en parlait aussi.
À reprendre.
Avec le Tolé.
On n'est pas dans les. On peut parler, on peut chanter comme on veut. Ouais. Tu sais. Le football, c'est pas des chansons de qu'on répète tous les jours. Attention, pour là, on pense parce qu'il y a il est hyper médiatisé en ce moment. Peut-être qu'en France, il n'y a plus, comme Kamel l'a souligné, il n'y a plus d'entraîneur offensif.
Ouais.
Et par magie, il y a un entraîneur qui joue avec deux attaquants et il devient le Messi. C'est un pays pauvre.
Ouais, c'est un pays pauvre.
Et Galtier est un technicien tout à fait ordinaire. Voilà, je dis,
Galtier, c'est le roi des pauvres.
Et j'assume.
Ouais, Yanas.
En fait, le truc, c'est que, comme disait Yacine, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que comme en ce moment, il n'y a rien. Si une équipe ou un entraîneur va faire un bon score, on va tout de suite dire ah c'est le futur Intel, Et en fait malheureusement on verra au prochain match de Lille. Je pense pas qu'ils vont faire ça encore et encore. Après ils ont pris l'opportunité parce que comme tu l'as dit c'était un Milan assez moyen. Ils ont réussi.
Même pas moyen, inexistant.
Respecter le Milan, c'est inexistant.
Mais
c'était un Milan assez moyen et du coup Lille en a profité, ils en ont mis 3. C'est un énorme exploit parce que ça n'est jamais arrivé de l'histoire du Milan chez eux. Donc faut quand même souligner ça. Après, comme tu disais, je pense pas qu'ils vont faire ça lors de leur prochain match en Europa.
Mais après, pour revenir sur Galtier, moi j'aimerais bien revenir sur Galtier, mais je l'avais déjà dit ici, c'est que Galtier, en fait, quand il était à Saint-Etienne, j'appréciais pas ce qu'il faisait, en fait. Il jouait très défensif, etc. Et là, depuis qu'il est venu à Lille, on voit qu'il a changé, en fait. Il s'adapte à l'effectif qu'il a, il a des joueurs techniques, offensifs.
Il a les moyens de sa politique qui a un minimum de budget. Et donc il recrute les profils qu'il veut.
Exactement,
il a un temps d'avis d'à plus de 30 millions.
Il s'adapte aux joueurs qu'il a en fait. Donc, parce que
c'est pas lui qui recrute.
Kamel le disait.
Donc il les utilise à bon escient.
Exactement, ce que je veux dire par là, parce qu'à Saint-Etienne, il avait énormément les moyens, bien qu'il avait des bons joueurs comme Aubameyang, etc. Il faisait comme il pouvait. Bah, à chaque fois, il terminait au du classement, quand même, mine de rien, il faut le dire. Et avec Lille, il se fait plaisir, il a des joueurs à sa disposition, il fait comme il veut, la tactique qu'il veut, la technique qu'il veut. Il a des joueurs, il peut les faire. Il peut changer les joueurs. Mais hier, c'était pas le même effectif que ce week-end en Ligue 1. Il change les joueurs, il arrive à faire ce que lui, il veut vraiment. Donc, ça qui est intéressant. Donc, ça veut dire que c'est un entraîneur qui s'adapte à l'effectif, qui se remet en question et qui arrive à.
Un effectif qui
est à son hauteur.
Bien sûr. Pour rebondir sur ce que disaient Anas et Yacine, justement, quand même, quand on regarde les absents hier sur le 11 de départ du côté du Milan AC, il manque les hommes forts. Il manque Çananoglu, il manque Rebic, il manque Ismaël Benacer aussi, qui est rentré à la fin et qui tout de suite quand il est rentré a stabilisé le milieu de terrain. Il était remplaçant, mais il est rentré à 10 minutes de la fin. Ouais. Exactement.
C'est un choix du coach.
Donc c'était un Milan, on va dire bis. Donc ok,
je suis pas d'accord avec toi.
C'est un Milan, un point bis, on va dire.
Non, moi je déglingue toujours les équipes de Ligue 1, c'est mon truc parce que.
Parce que les entraîneurs
ils sont.
C'est la Ligue des Talents.
Non, c'est la Ligue des Talents, c'est la Ligue de Uber Eats, etc.
Uber Eats.
Non, là je pense qu'il faut, par rapport au Milan AC, ils ont l'effectif. Ils ont pris de haut le Lille, ils ont pris de l'eau.
Très mal géré leur match.
Et il faut pas dire que c'est un petit Milan. C'est un Milan qui a joué. Ils sont tombés sur une grosse équipe de Lille qui a. Parce qu'il faut pas dire.
Il n'y avait pas de Rebic, pas de Çananoglu, pas de Benacer. Si c'est pas un Milan bis, je sais pas ce que c'est. Benacer
était remplaçant. Donc voilà, c'est qui.
Voilà, c'est un caissier.
Il a joué 10 minutes.
Non, voilà, mais il était remplaçant. Je veux dire, il y a un moment donné, faut pas dire que quand les clubs français font des mauvais matchs, ils sont nuls. Et quand ils font des bons matchs, c'est parce que l'équipe en face, elle est nulle. Je pense qu'il ne faut pas le dire. Là, je pense que Lille a
je pense que c'est important de souligner quand l'équipe est amoindrie en face. Il ne faut pas élever le tableau en disant que Lille a été exceptionnel hier. Sachant que Milan était amoindri.
Je veux dire, à un moment donné, c'est l'effectif du Milan. On s'en fout. C'est comme l'effectif du PSG. On s'en fout. Ils ont leur effectif.
Donc, c'est l'effectif du Stade de Reims parce qu'ils ont remporté. Ils ont fait une finale de Ligue des Champions dans les années 50.
Mais à l'instant T, il y a eu un match, le LOSC face au Milan AC, qui n'avait pas
son équipe type. Je t'ai énoncé les joueurs qui manquaient. Ils ont fait un très bon match.
Et t'as deux joueurs qui sont remplaçants, donc ça veut.
Est-ce que tu connais l'importance du milieu défensif, justement de Kessié Benacer, de la paire Kessié Benacer devant la défense, dans le schéma tactique du milieu?
Je la connais. Merci, tu n'as pas mal.
Je veux te dire,
il était remplaçant. Donc s'il était remplaçant, c'est que le coach a décidé de ne pas le faire jouer pour X ou Y raison. Que je suis pas d'accord avec le coach, bien sûr, parce que Benacer, c'est un joueur important. Mais je veux dire, il y a un moment donné, t'as ton effectif. Si t'as des blessés, des cas de Covid, tu t'ébrouilles avec ton effectif. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est logique.
Mais après,
au final, ça revient à ce
qu'il
pas un grand Milan.
Avant la pause. L'objectif
qu'il avait en titulaire, c'était pas un grand Milan. C'est ça.
C'est une bonne équipe quand même. C'est une bonne équipe.
Moi, je suis désolé. Il n'y avait pas les grands joueurs. Pour le coup, il n'y avait pas les grands joueurs. Donc, il n'y avait pas un grand Milan. S'il y avait peut-être tout l'effectif.
Est-ce que ça justifie de prendre un 3-0?
Oui, c'est bien.
Non, mais c'est un énorme Milan. Donc, eux, ils ont Lille.
Mais c'est la faute de Lille.
Ils ont profité. Christian Galtier l'a très bien compris. Ils en ont mis 3-0. Mais après, pour revenir à ce qu'on disait, est-ce que Lille est super fort, machin, etc. Non, c'est juste qu'ils ont pris le.
C'est une bonne équipe, Lille.
On va pas diminuer de la.
Rapidement.
On peut pas diminuer de la victoire de Lille.
Oui,
attention.
C'est une victoire.
Bon, Camara a des chances, mais ça reste un Milan à 7. Il doit avoir une profondeur de banc. Aucun joueur n'est indispensable.
C'est ça.
Moi, j'ai vu le match. J'ai vu des joueurs qui étaient complètement à la ramasse. Et la responsabilité. C'est du coach qui a très mal géré le match, qui a mal préparé son équipe. Je pense qu'ils sont arrivés, ils ont pris de haut cette équipe lilloise. Et le battant s'est retourné contre eux et ils ont pris la raclée. Et voilà, donc qu'on le veuille ou pas, ils sont rentrés dans l'histoire. Mais après, qu'on arrête de dire que Galtier, il a inventé le football.
Ok, vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. On accueillera Christophe Gamel, entraîneur de football professionnel, avec nous dans cette émission. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et de retour pour cette dernière émission de la semaine en ce vendredi soir. Et oui, que vous soyez en transport, à la maison, ou même en voiture, sur le périphérique, comme tout à fait le fait si bien Yacine. Non, lui, c'est en motocyclette. C'est ça. Vous nous écoutez, Beurre FM, 19h-20h. Viknesh est avec nous. Anas est avec nous en ce vendredi soir. C'est une première. Mourad, eh oui, que vous avez pu entendre, notamment sur le stade de Reims. Magnifique, l'épopée du stade de Reims, l'Olympique de Marseille, ou encore le finaliste de la dernière Champions League, le Paris Saint-Germain. Vivien nous a rejoint. Eh oui, l'amoureux de LeBron. Et sans oublier notre Yacine National. On part du côté international. Ah ben justement, l'international nous appelle.
Parce que tu veux que je joue en Ligue Uber Eats.
Il n'y a pas de problème. On va jouer en Division 1 dans le championnat algérien avec notre invité ce soir.
Time Sport.
Eh oui, du côté du Paradou Athletic Club, ça te fait plaisir. Christophe Gamel est avec nous ce soir. Comment ça va, Christophe?
Bonsoir la team, ça va?
Ça va très très bien, un vrai plaisir de vous avoir sur l'antenne de Beurre FM. Christophe, dites-nous tout, comment ça se passe du côté de l'Algérie, tout simplement?
L'Algérie, ça se passe bien.
Ça se passe bien? Oui, parce qu'on a... Franchement... Oui, on a pu quand même apercevoir que voilà, vous avez quand même sillonné, si je peux dire, le monde du football à travers nombre de pays, nombre de aussi des championnats que vous avez pu vous avez pu travailler, et cette fois-ci voilà, vous avez posé vos bagages du côté d'Alger, si je peux me permettre.
Exactement, hein, j'ai fait pas mal le monde, et franchement je prends un réel plaisir là avec mon ami Hakim Malek pour venir entraîner. J'ai découvert vraiment le joueur algérien qui me surprend beaucoup.
Ouais.
D'une manière positive.
D'une manière positive. Peut-être. Ouais, allez, on vous écoute, Christophe, allez-y.
Ouais, parce que c'est des gros travailleurs déjà, et que c'est pas l'image qu'on peut en donner des fois. Et il y a vraiment des gros travailleurs. On sait que techniquement, c'est particulièrement Paradou, c'est au-dessus de la moyenne. Vraiment.
Et pourquoi pas particulièrement le Paradou au-dessus de la moyenne?
Alors c'est Yacine, là, c'est une question de Yacine.
Bonsoir Yacine.
Bonsoir Guéret.
Je pense que c'est vraiment une directrice au niveau du club depuis les jeunes de développer à un point extrême la technique des joueurs, et que ça se ressent quand ils arrivent en équipe première chez les professionnels.
Et pourtant Paradou n'est pas le meilleur club en Algérie.
Oui.
Avec tous les moyens qu'ils ont mis pour la formation, on va dire spécifique, avec leur fameux centre de formation, mais ça n'empêche, ils ont jamais pu, même si ces 5 dernières années ils ont pu faire dans le top 5 des clubs algériens, mais ça ne reste pas la référence en la matière.
Non, mais ça prend du temps.
Ouais, et justement.
Ça fait des générations qui commencent à sortir. Il y a quand même des joueurs qui sont à la Ligue.
Mais excusez-moi, le football algérien n'a pas attendu le Parado pour exister.
Mais non, on n'a jamais dit que le football algérien a attendu le Parado pour exister. On parle de la formation, là. Et le Parado, quand même, est reconnu, bien sûr. Oui, Christophe.
Je pense que le Parado est assez reconnu au niveau de la formation en Algérie et partout dans le monde.
C'est vrai.
À partir de quoi ? Ça fait plus de 5 ans qu'ils exportent des joueurs et qu'ils réussissent plutôt bien à l'étranger. Donc, ça, c'est une valeur ajoutée à la formation.
Oui, surtout.
Les résultats au top niveau ne sont pas encore là, mais ce n'est pas le créneau forcément du club. La formation, c'est vraiment... très important, et nous on est là pour essayer d'être maintenant de pérenniser ça au niveau de la Ligue 1. Mais je suis d'accord avec vous, il y a des clubs qui ont une grosse histoire en Algérie. Par contre, il faut penser que le club il date seulement de 1994. Hein,
ouais.
Pour mettre les choses à leur place.
C'est ça, c'est un club très jeune aussi. Ouais, Mourad, on l'écoute.
Non, je voulais juste justement être dans la continuité de Christophe, hein, c'est ça hein. En disant que c'était c'est le Paradou aussi ratisse large dans sa politique de recrutement aussi, que ce soit aux prémices de l'académie Guiou au niveau du Paradou, ils allaient ratisser au niveau de toutes les wilayas en Algérie, et je trouve que c'est on ne peut plus normal de pouvoir bénéficier, pourquoi pas aujourd'hui sur ces 5 dernières années, du meilleur centre de formation actuel en Algérie, et ça personne ne peut le nier, même si on sait que les talents existent partout. Il y a d'autres clubs aussi qui produisent, on connaît l'USMA d'Alger, on connaît le Mouloudia d'Alger, la JSK entre autres pour ne citer deux, mais le Paradou, bien sûr que c'est une valeur sûre. Et le PSG, ça fait 10 ans aujourd'hui que les Qataris sont présents, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions au bout de 10 ans. On ne va pas reprocher au Paradou de ne pas gagner le championnat algérien au bout de 5 ans.
C'est pas pareil.
C'est juste pour faire un petit parallèle.
C'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes moyens. Mais...
bien sûr, ouais. mais à différentes échelles, à l'échelle nationale, le Paradou, c'est le PSG algérien aujourd'hui.
C'est
le club le plus rentable.
On parle de la formation. Il faut savoir les deux plus grands clubs formateurs en Algérie, ce ne sont ni le Mouloudia, ni l'USMA, ni la JSK, ni ce sont le Nahd Hussein Dey et l'Azmoran. Ce sont les deux clubs qui ont donné le plus d'internationaux pour l'Algérie.
Ouais.
Pour revenir c'est question de base et de profondeur et de l'âme du club.
Ouais.
C'est très important aujourd'hui. L'Azmo, même si tous les problèmes que connaît le football algérien, ce club, mais continue toujours à donner de très très bons joueurs à tous les niveaux, surtout en petite catégorie. Il faut savoir que l'Algérie est l'un des rares pays au monde qui prend en charge complètement le football. Là où je peux rejoindre un petit peu la discussion pour le Paradou, parce que Monsieur Kherdine Zetchi avec son frère Hassan, il y a une vingtaine d'années, c'est les premiers à avoir compris que pour vraiment réussir en Algérie, pour vraiment travailler dans la transparence, il faut investir son propre argent. Et ce que lui a fait, personne ne l'a fait. C'est-à-dire, il n'a jamais donné l'opportunité, c'est-à-dire à d'autres personnes d'intervenir ou de s'immiscer dans leur travail. Aujourd'hui, on le voit par leur politique quand ils ont créé leur propre formation il y a quelques années avec Jean-Marc Guillou. Mais il faut savoir une seule chose, que au niveau des petites catégories en Algérie, à tous les niveaux, ça travaille très très bien, parce que le football, il est pris en charge par l'État.
Ouais.
Je ne vois pas. C'est le seul pays au monde où les licences sont payées par.
Il faut
par,
lui laisser
par,
du par, temps, Yacine.
Comme le
disait Christophe Gamel, notre invité ce soir.
La génération qui a malheureusement, sans le match truqué entre l'Allemagne et l'Autriche, peut-être que l'Algérie serait. On aurait pu gagner la Coupe du Monde avec la génération.
Peut-être. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un autre sujet. On va revenir. Là, je comprends bien. Je comprends bien, Yacine. Mais bien sûr.
L'Algérien a
et on l'entend tous et on le comprend tous ton cours d'histoire, Yacine.
Dans la formation et dans ce qu'on appelle la réforme sportive.
Bien sûr.
Dans les années en 76.
C'est bon, Yacine, je peux...
Voilà.
Bien sûr.
Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que l'État algérien ou que le ministère des Sports investisse aussi sur les coachs? parce que là je vois sur Paradou vous êtes deux coachs français, donc je vois pas de voilà, et pourquoi il y a pas de coach algérien.
Ouais,
non, mais je veux dire, il y a, non, mais moi, je vous attaque pas en disant ça, hein, mais moi, je me dis que ça, il faudrait qu'ils travaillent sur les coachs,
pour la formation.
Parce que si vous avez des super joueurs et vous êtes un mauvais coach, bah, ça va faire à l'arrivée des mauvais joueurs.
Tu as résumé en deux phrases. Le grand problème au niveau des jeunes en Algérie, ce sont la formation des entraîneurs qui n'est pas à la hauteur aujourd'hui des normes internationales. Voilà, peut-être, c'est ce que Monsieur Zetché a fait pendant de longues années avec Jean-Marc Guillou. Après, il s'est mis avec l'école espagnole. Et aujourd'hui, c'est tout bien de revenir un petit peu à la formation à la française. Donc, il a fait appel à
Christophe Gamel aussi.
Et à Christophe. Je pense que ça, c'est une bonne chose.
Et c'est ça.
Voilà, tout simplement.
Bien sûr.
Donc, après, dans le football, quand on est professionnel, aujourd'hui.
Bien sûr, Christophe.
Il faut s'adapter au contexte, comprendre comment ça marche ici. Franchement, je découvre des belles choses. Hein. Je suis vraiment agréablement surpris. Et c'est vrai que la formation en français, on va pousser pour. Moi, j'ai aussi derrière l'expérience avec une formation italienne. Donc, ce double cursus, plus l'expérience avec Hakim, on va tout faire pour présenter.
On l'espère.
C'est vraiment ce qui est intéressant. Alors, sur la formation, moi, c'est ce que j'ai vu depuis juste 4 semaines. Je ne peux pas parler en général de toute la formation en Algérie. Là, je pense que ceux qui sont avec vous autour, ils connaissent bien mieux que moi.
Ah oui. Moi, je connais très, très bien le...
Bien sûr.
Je connais très bien
les
jeunes catégories en Algérie.
Ouais.
L'exemple de l'USMA d'Alger, où au niveau des U15 et U17, il y a des joueurs, mais d'un niveau mondial.
Ouais.
C'est pas un niveau national, mais c'est un niveau mondial. Donc, s'ils sont pris en charge, je pense que l'Algérie, dans 2-3 ans, on va produire de vrais grands joueurs à l'échelle internationale.
Ouais, ça serait bien ça. Mourad. Bien sûr.
Moi, j'avais juste une question.
Avec Christophe Gamel, notre invité.
Exactement. J'avais juste une question par rapport au championnat algérien qui est à l'arrêt actuellement. Est-ce qu'il aurait de la visibilité sur une éventuelle reprise ?
Alors, oui. Nous, on pense que. Enfin, ils ont donné l'information qu'on pourrait reprendre le 28.
Ça serait pas mal, ça.
Ouais, ça serait super. Parce qu'il y a d'autres championnats qui ont déjà repris aux alentours. Donc.
Voilà, je pense que c'est assez catastrophique ce qui se passe actuellement au niveau de l'arrêt du championnat par rapport au public, malheureusement.
Il y aura des chances de repartir le 28.
Non, mais si le championnat reprend, est-ce que ça sera à huis clos ou il y aura des spectateurs?
Ah, ça sera à huis clos.
Ça sera à huis clos, d'accord.
Ça sera les mêmes règles pour tout le monde. Bon, on a des règles très strictes ici qu'il faut respecter à la lettre.
Je vous le confirme qu'il ne va pas reprendre le 28. Hein.
Ouais. Bon, ben ça, c'est toi. Lui, on verra bien.
Et il
ne reprendra
pas le 28.
On verra bien en tout cas ce qui se passe. Anas, peut-être une réaction avec notre invité Christophe Gamel avant de les quitter.
C'est dommage, on est un peu sorti. C'est juste pour savoir comment vous êtes adapté en Algérie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plutôt surpris agréablement et un peu moins dans le championnat algérien?
Alors pour l'instant, on a fait quelques matchs amicaux. Sur le niveau, moi, je suis très agréablement surpris, mais j'en doutais pas parce que bon. On a vu quand depuis quelques années avec l'équipe nationale comment sortir du lot. Et tous les joueurs intéressants en France où j'ai pu connaître, j'ai eu Amir Nouri par exemple qui était en leader avec moi en Belgique l'an dernier, quand j'ai repris un club pour le sauver. Les joueurs comme ça, il y en a beaucoup avec de la qualité énorme. Donc dès qu'il y a une formation avec et puis une certaine rigueur, pour vraiment draguer le joueur algérien, ça donne vraiment un machine de guerre. Sincèrement, moi j'étais bien au Paradou, je parle du Paradou, surpris de niveau technique, mais aussi de l'investissement des joueurs. Ouais. Mais quand une fausse image qui est véhiculée comme ça, c'est pas bon, mais en fait, des grands travailleurs.
Et du coup, quelle serait la différence entre le championnat algérien et du coup, comme vous venez du championnat belge, est-ce qu'il y a une différence en termes de jeu, en termes de technique, de stratégie par rapport?
Alors, au niveau de l'impact physique, en Belgique, moi, en Ligue 2, il était vraiment en avant. Il était mis en avant beaucoup. Ça en marchait, comme on dit dans le jargon. beaucoup. En Algérie, ça y est, mais il y a aussi quand même le fait de développer du jeu, hein, et puis de prendre plaisir à créer, à dribbler. Il y a une grande qualité de, ouais, de création. Mais c'est bien la technique, hein, quand vous êtes technique, vous avez plus enclin à créer du jeu.
C'est pas faux.
C'est un vrai plaisir, ça, vraiment.
Christophe Gamel.
Même à l'entraînement, quand vous donnez des bonnes. Quand vous créez, vous mettez des jeux en place et que vous les voyez évoluer même au-delà de vos espérances, c'est bon.
Christophe Gamel, on vous remercie pour toutes ces réactions sur l'antenne de Beurre FM et d'avoir été notre invité ce soir, ce vendredi. Et vraiment, que du succès au Paradou Athletic Club. Et aussi, eh ben, pourquoi pas vous recevoir dans ce magnifique studio de Beurre FM, on l'espère, hein, d'ici la fin de saison. Ça serait un plaisir. Oui, allez-y.
Un petit bonjour si j'en ai l'opportunité.
Bien sûr.
J'ai eu un coup de main aussi de Walid Bouchnefa. Je voulais passer un coucou à quelqu'un qui a vraiment cru en moi, qui s'appelle Abès Mayedine.
Voilà, ah oui.
Je remercie aussi quelqu'un qui travaille avec vous, voilà, qui me suit depuis quelques années, voilà, maintenant.
Eh ben c'est fait. On vous en remercie, Christophe.
Voilà, bon courage à vous tous.
Merci. Merci. Merci, l'émission continue.
Bon courage.
On va aborder...
Soin de vous.
Ouais. Et vous aussi. On a fait que Baraka. Voilà. Ça, c'est dit. Avec Christophe Gamel, notre invité pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, on va poursuivre cette émission avec Yanis et aussi cette équipe de France.
Time Sport, la victoire.
Ouais, on revient en France, justement. Oussem Aouar remplace Nabil Fekir pour les trois matchs internationaux de cette fameuse équipe de France de Didier Deschamps. Que dire, Nabil Fekir, victime d'une blessure. Eh oui, aux ischio-jambiers, Yacine, Viknesh. Aïe, 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 ça promet donc des beaux matchs, peut-être avec Oussem Aouar, encore une fois. Le pauvre Fekir, Mourad, Anas, Kamel, Vivien.
Ben moi, par rapport à la reconvocation, en fait, d'Oussem Aouar, puisqu'il a été non convoqué puis rappelé pour remplacer Fekir. Moi, c'est le champ lexical de Didier Deschamps qui m'a un peu surpris. Je ne sais pas si vous avez lu un peu son communiqué où il, ouais, parle de rentabilité, il parle de garantie par rapport à Oussem Aouar. Donc, quel message il envoie à quelqu'un qui va remplacer un blessé en termes de confiance? Donc, moi, ça m'a un peu dérangé, ce champ lexical un peu de, on va dire, du système financier où on considère un peu un joueur comme un prêt immobilier ou même comme un actif.
C'est une marchandise.
Je trouvais ça un peu surprenant comme une marchandise. Donc, je dis, quel message, je pensais, on envoie à Oussem Aouar lorsqu'il va intégrer le groupe à Clairefontaine.
Après, il n'a pas le droit à l'erreur, tout simplement. Ouais. Mais, tout à fait, ça, c'est ça le message. Il n'a pas le droit à l'erreur.
Mais il n'aura pas beaucoup d'occasions.
Pour qu'il soit aussi stabilisé, aussi longtemps dans cette équipe de France, sachant qu'il a été d'une neutralité incroyable depuis la Coupe du Monde 2018.
Mais quand on lui a posé la question, un journaliste lui a posé la question, pourquoi ne pas avoir pris Oussem Aouar et avoir pris Fekir, déjà dans sa conférence de presse, il y a eu un blanc. Il a bugué Deschamps. Il a même dit, tiens, ça c'est une question bizarroïde, pourquoi vous me la posez? Et il a même comparé Aouar au jeu de Fekir. Il a dit, ils ont le même jeu.
Exactement.
Et Aouar, il est moins performant que Fekir. Alors c'est deux joueurs totalement différents. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Donc, je veux dire, là, il est parti dans des considérations complètement apocalyptiques. Il fait n'importe quoi. Je veux dire, il décide de prendre Fekir, alors que Fekir c'est un attaquant et Aouar c'est un numéro 8, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir.
Ils sont dans des registres complètement différents.
Oui, voilà, c'est ça.
Et la convocation d'Aouar, je pense qu'on a oublié uniquement à une seule chose, parce qu'il savait qu'il était courtisé par la sélection algérienne. Oh, il lui a donné une sélection et comme ça il va le mettre au frigo pendant de longues années. Vous allez voir, vous allez voir comment ça va se passer. Ben, regarde comment il l'a traité. Aujourd'hui, excuse Viknesh de finir, s'il te plaît, je vais finir, j'ai pas encore fini. Oussem Aouar est l'une des valeurs sûres du football français.
Ok, ça c'est toi qui le penses.
C'est pas moi qui le pense.
Ouais.
Mais tu peux demander à tout.
Apporte
à tout.
Pense aussi que c'est une valeur sûre.
Non, c'est pas moi qui le pense. Moi, quand je pense quelque chose, je pense à connaître un petit peu le ballon, surtout combien il pèse, ouais, pour te répondre. Et aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un joueur plus cher sur le plan même de la valeur, on va dire, mis à part Mbappé,
Kamavinga peut-être.
Mais Kamavinga déjà, ouais, qu'il prouve quelque chose. On va le voir à la langue. Mais là aujourd'hui le sujet c'est Oussem Aouar.
L'équipe de France aussi, les trois matchs à venir. Pas que Oussem Aouar.
Être traité de la sorte, Moi je pense qu'il n'a aucune dignité de revenir. Moi si c'était moi à sa place, j'aurais refusé de revenir en équipe de France. Je suis content.
Non,
il a réduit à zéro. Rien du tout.
Vous emballez pour rien.
Et c'est ton
avec Nash.
Et c'est tant mieux pour lui.
Alors Anas, avec Nash.
Vas-y.
Anas.
Vas-y.
Ouais. Alors les gars,
Vic Nash,
j'étais en train de parler. Du coup, moi, pour revenir sur la liste des champs en général, on va parler. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune surprise. Il a vu que tous les joueurs qui pouvaient étaient disponibles, donc il a pris Dubois, il a repris les joueurs de base, on va dire. Juste la surprise, c'est Marcus Thuram. Ça, je tenais à souligner parce qu'il fait une bonne saison. Depuis l'année dernière, il est très très bon avec son duo avec Alassane Pléa. Donc il fallait qu'un des deux soit en équipe de France. Bon, il a choisi Marcus Thuram, hein, ça aurait pu être Alassane Pléa.
Il a choisi le fils de son ami.
Et ouais, donc oui.
Mais tu penses que toi, Marcus Thuram mérite sa place en équipe de France?
Bah, il a marqué un doublé contre le Real quand même.
Parce que moi, c'est pas pour rien.
Et l'année dernière, il a marqué plus de 10 buts en Bundesliga, etc.
Il a donné une chance.
Oui, voilà. Après, il va faire la scène play-up peut-être une prochaine fois. Donc,
ce qui est inconcevable, c'est quand tu fais une conférence de presse et tu dis ça va faire plaisir à son papa. C'est comme si tu faisais plaisir à son papa.
Il a fait plaisir à son papa.
Non.
Il joue sur la fibre émotionnelle.
C'est ça.
Oui, il veut toucher les gens, il veut nous faire pleurer. Avec France 98.
Alors, Anas.
On s'en fout de France 98.
Non, bien sûr qu'on s'en fout.
Anas.
Il n'y a rien à foutre de France 98.
Oui, on parle du sélection nationale, on ne parle pas de l'émotionnel.
Merci, Yacine, s'il te plaît. J'aimerais entendre Anas.
Il disait ça parce qu'il connaît son père. Peut-être que son père disait j'espère qu'un jour mon fils jouera en équipe de France. Et là, il a l'opportunité de jouer en équipe de France. Et du coup, c'est un clin d'œil. Peut-être qu'il voulait juste tout simplement souligner les efforts de Marcus Thuram. Il l'a fait, lui donne sa chance. Après, si Marcus Thuram rate sa sélection et qu'il est pas bon, bah du coup tant pis pour lui.
Mais il est pas bon.
Il est pas bon. Bah là, à mon avis,
Kamavinga, il est au-dessus, bien au-dessus de Marcus Thuram.
Marcus Thuram, tu peux pas encore juger.
Si on veut faire de l'émotionnel, de dire voilà.
Ouais, on est là dans la vérité.
Non, mais je veux dire, l'émotionnel. Je peux parler sur
Oui, Kamel. Alors.
Là, on est dans l'émotionnel parce que c'est Thuram, etc. Il veut pas. Mais si, il a dit, c'est émotionnel. C'est, ça va faire plaisir à son papa, etc. Donc, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, soit t'es sélectionneur et tu fais ta liste en fonction des forces de tes joueurs, etc. Mais tu dis pas émotionnel parce que c'est ça fait plaisir à son papa, c'est son ami. C'est il lui donne une sélection, il lui donne une sélection. Voilà.
Rapidement, dans un transfert, s'il te plaît.
Est-ce que tu penses que Didier Deschamps a recruté Marcus Thuram juste parce que c'est le fils?
Sélectionné.
C'est un facteur.
Mourad,
je voudrais juste revenir. Cohérence de la liste en fait.
Ouais, tu vois, des incohérences.
En fait, la
qualité
de 2018 n'est pas forcément celle de 2020.
Aïe.
L'équipe de France gagne la Coupe du Monde en 2018. Le même groupe a été repris en 2002. Ils n'ont pas passé le premier tour. Aujourd'hui, je trouve inconcevable qu'on retrouve des Nzonzi, des Nabil Fekir, des Sissoko encore présents.
Merci Mourad.
Il y a un cycle à renouveler.
Ouais. Merci Mourad. On va revenir sur le cas de l'équipe de France de Didier Deschamps juste après la dernière pause. C'est promis.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beber FM pour la dernière partie, toujours en compagnie de ce magnifique plateau, Anas, Vic Nash, Mourad, Yacine, notre globe-trotteur, et oui, lui aussi, il est en live sur Facebook, va savoir, et il va être président de Kamel, sans oublier, Vic... non.
Vivien. Vic Nash, excusez-moi.
Eh oui, je suis un peu perdu, là. Tu as bien raison. On a parlé de Oussem Aouar. Terminé avec Oussem Aouar, de Nabil Fekir. On va parler aussi, notamment, de cette fameuse santé. Il aime bien s'attarder sur cela. Mourad, je vais te laisser la parole. Eh oui, c'est maltraiter peut-être le corps des footballeurs. Oui, Mourad. Eh oui, les joueurs. Trois matchs, Mourad. Eh oui, que dire sur ces footballeurs aussi? Oui, Kamel, vas-y, tu peux. Alors,
on parlait tout à l'heure de avec Mourad de Lille et de surtout du Milan AC. Il y a un effectif. Ils ont un effectif. Ils sont 26. Ils doivent jouer 3 matchs. Je veux dire, on va pas reprocher aux joueurs professionnels de jouer tous les 3 jours dans une pipe. C'est incroyable.
Trois matchs internationaux, Kamel.
Non, mais trois matchs internationaux. Mais non, mais on
on marche sur la tête. C'est-à-dire, les joueurs, ils sont professionnels, ils doivent jouer trois jours, ils ont une pléiade de médecins, de kinés, de trucs et tout, et ouais. Ils jouent tous les trois jours.
Et on surtout dit, le salaire à la fin du mois.
Ouais,
ça fait trop quand même.
Pas, ouais, ça fait trop. Mais ça fait pas trop tous les trois jours.
La Covid est toujours là quand même.
Mais non, oui, mais le Covid c'est autre chose. Mais je veux dire, tous les Covid, faut qu'il soit enfermé, comme ça il la tromperont pas. Mais je veux dire qu'il y a un moment. Je veux dire, il y a un moment donné, on peut pas dire arrêtons de faire jouer les joueurs tous les trois jours alors qu'ils ont des effectifs, etc. C'est aberrant. Ouais, ça veut dire les mecs ils sont payés 800 000, 300 000, 400 000 euros et ils vont jouer une fois par semaine. C'est les colonies de vacances. C'est un truc de fou. C'est incroyable.
Mais là, tu parles des trois matchs amicaux, mais c'est une aubaine pour des sélections nationales. Ouais. Et c'est une raison pour que les joueurs, il y a beaucoup de sélections
qui ne sont pas. Pas pour les clubs, peut-être.
Pour travailler la cohésion. Par exemple,
pour le Paris Saint-Germain, le Bayern.
Comme ça, comme si on fait plaisir aussi.
On s'en fout.
Tu touches 1 million d'euros avec 20 médecins, 40 kinés, 50 ostéopathes. Tu penses à eux? Ça,
attends, tu te calmes là.
Mais c'est des dates FIFA. Et je pense que beaucoup. Tous les joueurs se réjouissent de se retrouver en sélection nationale.
Et
ça donne l'opportunité aux sélectionneurs de pouvoir faire un turnover, de tester de nouveau.
Ça, c'est selon toi.
Et faire recruter des. Pour son pote, pour Thuram, etc. Et
pour Thuram, voilà.
Côté des joueurs, peut-être qu'on peut se sentir un peu surexploité, etc. Bon. Mais si on se met de point de vue de Didier Deschamps aujourd'hui ou d'un coach international, pour lui c'est une aubaine
d'avoir trois matchs internationaux, de pouvoir mettre en place des schémas tactiques, de créer des automatismes, etc. Donc, de quoi se plaindre, de pouvoir travailler en bonne et due forme. Et c'est le rêve de tout sélectionneur.
Pas des clubs.
Je vais répondre à la question, en quoi les joueurs sont surexploités?
Ben justement, je dis que je peux comprendre qu'on puisse que. On se plaint de jouer tous les trois jours, etc. Et mais c'est moi, c'est pas du tout mon avis. Faire de longues distances, aller au Brésil, faire un match international et revenir, aller en Ligue des Champions, dans l'Est de l'Europe, etc.
Aller au Brésil dans un jet privé en classe affaires, etc.
Vitesse, je n'ai pas entendu, c'est pas normal. C'est pas normal, Vitesse et Anas. Encore, vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être on maltraite ces footballeurs.
Comme a dit Mourad, en fait, ça se dépend, on se met à la place de qui, en fait. Si on se met à la place de Deschamps pour prendre l'équipe de France, moi, je trouve ça extraordinaire parce que tu as le choix, tu peux faire tourner. Tu peux faire plusieurs tactiques, plusieurs techniques. Tu peux voir Thuram, tu peux voir Ben Yedder, etc. Donc c'est cool pour l'équipe de France.
Merci pour Ben Yedder avec Nash. Hein.
Après,
on l'a oublié.
Ils aiment bien Ben Yedder, Ivan Garge de ma ville, donc c'est un bon joueur.
Du coup, c'est
On avait dit pas de séparatisme, mais pas de communautarisme.
S'il te plaît.
Ça n'a rien à voir. Et du coup, non, c'est la ville natale. Et du coup, après, pour revenir à la place des clubs, au PSG par exemple, il restera 5 joueurs de choix en fait. Donc ça, c'est dramatique. Sachant que t'as déjà Neymar qui est blessé, Mbappé qui est blessé, t'as plein de joueurs qui sont blessés. Donc c'est dramatique.
Si je peux rajouter un argument, il y a aussi le nouvel règlement mis en place par la FIFA avec l'autorisation des 5 changements. Ça aussi, c'est pour alléger justement les effectifs qui sont sollicités. Donc là, tout va dans le sens des joueurs. Donc on voit même pas pourquoi certains devraient se plaindre en fait.
Je pose la question à Bilal Nedman.
Je pense aussi.
Mais quand même. Mais non, le PSG quand même. T'as
le droit de donner ton avis aussi.
Regardez où on va. Deschamps appelle Mbappé blessé. Il se dit, il est blessé. On va le guérir et on va le faire jouer. C'est totalement aberrant.
Anas, si on revient.
Quand on est le club du PSG, qu'on dépense 26 millions, 27 millions d'euros sur un joueur et qu'on l'emmène blessé, c'est compliqué.
C'est compliqué. Mbappé, c'est une marche.
Oui, Anas.
C'est ça le problème. Qu'il soit blessé ou pas, on est obligé de le prendre.
Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi?
Mais non. Pourquoi tu le prends? Obligé de le
C'est nouveau, c'est parce qu'il avait annoncé un football et nouveau football.
J'ai l'impression d'entendre. Avec Alain, je l'ai
terminé. Attends, moi.
Avant Mbappé, qui représentait l'équipe de France? Donnez-moi une tête qui représentait l'équipe de France.
Karim Benzema.
Ça remonte à loin.
Benzema, quand? Au moins les cartes pour être l'image de l'équipe de France.
Il n'a pas tort.
Il me donne l'occasion de rebondir avec le nouveau football.
Et Zizou aussi, il a représenté.
Ça remonte à longtemps.
Comment ça se fait?
Mais qu'est-ce qu'il a fait Mbappé en équipe de France?
C'était
un but exceptionnel. Je veux dire individuellement.
Est-ce que je peux placer une, s'il vous plaît?
Ouais. Tu peux placer une petite bille, vas-y.
Comment il s'appelle?
Oui, monsieur, vas-y.
Fekir. Fekir, il est blessé.
Abdel Fekir.
Et donc, il a été remplacé par Aouar.
Ouais, Oussama
Aouar. Et Mbappé blessé, il est remplacé par personne.
Il est pas remplaçable.
C'est la star.
Il est remplaçable.
La star de cette équipe.
Bah, c'est inconcevable de penser comme ça.
C'est inconcevable. C'est le nouveau football, il faut emmener les joueurs blessés.
C'est
du PSG.
Mbappé, Kylian est la star. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mourad, avant la fin de cette émission, c'est un plus trop le temps.
C'est inconcevable de penser aussi individualiste comme ça, ouais, comme cela pour Mbappé, sachant que aujourd'hui le football, c'est, ça n'a jamais changé, c'est un sport d'équipe. Mbappé aujourd'hui, ce qu'il lui reprochait justement, c'est de ne pas performer dans les grands matchs, dans les grandes compétitions comme la Ligue des Champions. On se souvient que Mbappé ou Neymar ont toujours été meilleurs lorsqu'ils étaient associés, je pense à Mbappé à Monaco, à un Falcao notamment, ou à Neymar à côté d'un Messi ou d'un Suarez. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont considérés comme des idoles, comme le fait aujourd'hui Hannes, qui a inventé une nouvelle religion autour de Mbappé. Donc je pense qu'il va un peu trop loin. Nouveau football. Non mais écoute-moi, Hannes. Le football est une religion, c'est le problème du peuple. T'as dit nouveau football, donc nouvelle religion.
On coupe le micro. S'il vous plaît, voilà, c'est le fameux s'il vous plaît.
Je pense qu'il faut arrêter d'individualiser ce sport, revenir à des basiques qui sont que le football est un sport d'équipe et Mbappé a besoin d'autres joueurs à côté de lui pour exister.
Merci, Anas.
C'est comme ça. Zizou, il avait pas de jambes ou quoi que ce soit, on aime le regarder. C'est une image.
Même blessé, il dort, on peut.
Mbappé, c'est pas ouais. C'est le nouveau, entre guillemets. C'est pas le nouveau Zidane, mais c'est la nouvelle. Ouais,
presque.
C'est vrai.
Mais
il
faut le souligner.
Et est-ce qu'on peut parler de la sélection de Benoît Costil, qui est le gardien du club de Bordeaux, qui est,
c'est pas mal.
Qui est en Ligue 2, qui est quasiment en Ligue 2. Qu'est-ce qu'il fout, Benoît Costil?
Oh, quand même.
Bilal, qu'est-ce qu'il fout en équipe de France?
Mais t'as répliqué. Moi, je vais te dire ce qu'il fout en équipe de France.
Quand même.
Moi, je vais te dire ce qu'il fout en équipe de France.
Alors, il fout quoi?
Il ressemble à Giroud, tout simplement.
Arrête.
Il ressemble à Giroud.
Bon, t'as pas le droit de dire ça.
Non.
Mais
Giroud, il sera titulaire en plus.
On invitera Benoît Costil, s'il vous plaît. On s'écoute.
Il n'y a aucun problème avec Giroud. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.
Bien sûr.
Il
n'y
a aucun problème avec Giroud.
C'est vrai. Il a bien des choses de Giroud.
Non, mais c'est vrai.
C'est quoi, ils font 1m90 les deux, c'est ça?
C'est peut-être son style de joueur, physiquement. D'un point de vue physique, c'est peut-être son style.
Quand il a annoncé 4 gardiens, il a mis Benoît Costil, c'est une aberration.
Mais tu prends qui à sa place du coup?
Il veut faire tourner le fils de Zidane. Il a oublié, il a pas mis.
Il en profite.
Non, Benoît Costil, il a pas arrêté un but avec Bordeaux depuis
Benoît Costil.
C'est zéro.
Il va pas jouer.
Mais tu connais les arguments de Deschamps. C'est il s'intègre dans un groupe. Il est neutre, il respecte les consignes, il fait pas de vagues.
Oui, c'est pour ça.
C'est un joueur de vestiaire. Ce sont ça aujourd'hui les arguments de Didier Deschamps. Quand on voit qu'un Veretout à l'AS Roma aujourd'hui n'est même pas dans la liste élargie de l'équipe de France, je trouve que c'est aberrant. Alors qu'on continue, et ça fait des années aujourd'hui qu'il marche sur la Serie A au milieu de terrain.
Merci, on termine avec toi. Et les pronostics. Assieds-toi, s'il te plaît.
Même quand il était à Anderlecht, il était au sommet de son art. On lui a donné une chance à Veretout. Mais c'est vrai.
Mais pourquoi, du coup?
Mais je te crois.
Parce qu'on a inventé le nouveau football.
Merci, Mourad. Merci, Yacine.
Justement, on n'a pas trop le temps. Bon, on va donner vite les pronostics. MediaPro qui demandait vraiment les 25% de réduction sur sa facture. Ça a été dit. Et sur le match de ce dimanche soir 21h, l'Olympique Lyonnais qui reçoit sa bête noire.
Peut-être son rival.
L'AS Saint-Etienne, excusez-moi. Pronostic avec Anas. Ouais. AS Saint-Etienne 2-1
Lyon.
Viknesh
4-0 Lyon.
4-0, ah ouais, c'est fort.
3-0 pour l'OL, vu que Puel a prôné le plaisir et non pas le résultat. Je sais pas si vous avez regardé la conférence de presse.
Du coup, Vincent Pontivy.
Yacine, voilà, Saint-Etienne.
Ils ont dit tous Lyon, moi je vais dire Saint-Etienne.
Saint-Etienne, le score, Yacine.
Je dirais Saint-Etienne.
Saint-Etienne, ok, Vivien.
Un partout, c'est le nouveau football.
C'est le nouveau football, je sais pas qu'est-ce qu'il a, oui.
Non, moi je dirais Saint-Etienne, 2-1 Saint-Etienne.
2-1 Saint-Etienne. Un grand merci. Oui.
Je voudrais remercier Anas pour cette nouvelle expression. Oui. Je connaissais le Beaujolais nouveau, mais le nouveau football, je ne connaissais pas.
Anas, en ce vendredi soir, jour, en plein confinement, eh ben voilà, tu as inventé un.
Merci.
Franchement, c'est.
Anas, président. Regardez le foot, les amis.
Mais oui.
On va se rapprocher de l'INPI, on va déposer cette expression.
Merci. Merci à Kamel. Merci à Kamel. Merci à Vivien. Merci à Yacine, à Mourad.
C'est
aussi
pas
avec Nech et Anas, voilà, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. C'est vrai, durant cette semaine, on a été un peu farfelu, si je peux me permettre, et aussi Tony Truant sur l'antenne de Beurre FM. Désolé à vos oreilles, et même si vous nous avez entendu dans la maison, en voiture, ça a dû crier.
Désolé pour la cacophonie.
Yacine avec nous, voilà, désolé pour cette fameuse cacophonie. Eh oui, le football algérien, le football marocain, le football tunisien, le football venu d'ailleurs aussi.
Il y aura une autre sélection pour la semaine prochaine de consultants, parce que c'est pas bon, là, ça crie trop.
Aïe, 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 ça crie trop, là, c'est pas possible. Allez, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, avec Café des Artistes et Mourad. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.